nos différences. Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Seb au micro, on va passer une heure ensemble, on va parler de chatons, on va parler de chats, on va parler d'entreprise, on va parler de mafia, un peu d'armée et puis d'autres trucs. Allez attention, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Ça va bien ?
Salut Seb, ça va et
Fabien?
Toi ? Ouais, nickel.
Bon, j'espère que vous allez bien chez vous, chers auditeurs. Nous, on va être très bien dans le studio. On est peut-être un peu fatigué, moi oui, mais
ouais,
ça va
moi,
le faire.
Un petit peu aussi, mais c'est toujours cool de venir et ça redonne la patate à chaque fois.
Ouais.
C'est sympa.
N'hésitez pas, si vous souhaitez nous parler en direct, le chat de la radio est toujours disponible. Vous allez sur Radio G, onglet chat, et on répond à vos messages que vous nous laissez gentiment dans le chat, qui que vous soyez, à partir du moment où vous êtes bienveillant. Voilà. Voilà. On va essayer de modifier des petits trucs, on essaye d'expérimenter des choses. On parle pas souvent des suites, c'est un constat qu'on a fait avec Fabien depuis un moment. Des fois, on a des nouveautés qui arrivent, qui sont des numéros X d'une série. Alors, on l'a déjà dit, on le redit, hein, on essaie d'être sympa avec vos étagères et pas forcément de partir sur des séries extrêmement longues. Mais des fois, voilà, on a des suites qui arrivent et puis on n'en parle pas beaucoup. Donc on va essayer de résoudre un petit peu ce problème. Donc il y aura un générique, je vous le fais pas à la bouche parce que je l'ai pas encore proposé. Mais on va parler de suites qui viennent d'arriver. Et là, je voulais parler du tome 3 de Racaille de Bibliothèque. Dont on a parlé il y a un petit moment déjà. C'est publié aux éditions Nobinobi, c'est de Zuino et c'est de Kei Keiyama. Et ça parle d'un jeune homme qui va en bibliothèque pour emprunter un livre parce qu'il en a besoin. Il se rend compte qu'il aurait déjà dû rendre un livre il y a de ça un petit moment. Et de fil en aiguille, il va se mettre à travailler à temps partiel pour cette bibliothèque. Ce qui nous permet à nous, lecteurs, de découvrir comment fonctionne une bibliothèque. C'est rigolo, il y a des personnages qui sont très hauts en couleur. Il y a un des rats de bibliothèque, des gars qui bossent là, qui est un bodybuilder, parce qu'il s'est rendu compte que en ayant des gros muscles, il arrive à faire peur aux gens, bien qu'il soit ultra calme et gentil. C'est super drôle. Moi, c'est une série que j'aime bien, ça évolue, on continue de découvrir plein de choses sur les bibliothèques, et c'est vraiment très très sympa. Donc, voilà. Donc j'avais pas fait attention. Ah non, c'était juste collé. J'avais une page de collé. C'est une série qui est en je sais plus combien de tomes. J'ai pu regarder, mais c'est pas fini. Le troisième tome n'est pas la fin. Donc voilà. Tu l'avais lu ça toi ou pas ?
Non, j'en avais entendu parler, mais j'avais pas eu l'occasion de lire.
Bon, bah écoute, c'est très très bien. Moi j'aime bien, c'est vraiment cool. Et puis voilà, j'ai été longtemps à rat de bibliothèque, donc. Faut y aller. Voilà, je suis en train de regarder si j'avais pas le nombre de tomes. Quand le tome 1 est sorti, il y avait 11 tomes au Japon, c'est sorti en 2021, donc on peut imaginer que, vu que le rythme de sortie français est assez rapide, on a peut-être 12 tomes, 13 tomes, on verra. Hop. Donc on vous parlera comme ça, de manière assez courte, des suites qui vont arriver.
Oui, ça permet de remettre un peu les séries en avant, parce que des fois, on parle des premiers tomes, mais c'est sympa de dire que ça continue, et surtout des séries qu'on apprécie. Donc,
ouais,
c'est
plutôt cool de faire ça, ouais. Ouais. Puis ça permettra d'éviter justement effectivement que ça passe sous le radar, parce qu'on, je sais plus les stats exactes, mais une nouveauté sur une bibliothèque d'un libraire, c'était 3-4 jours maximum de visibilité, ce qui est quand même assez peu. L'émission sert à mettre en avant des titres que vous auriez pas vus, et bah, si on peut remettre en avant une série qui peut se retrouver enfouie sous plein de nouveautés, c'est aussi plutôt cool à faire. Voilà, voilà. Je le dis, je vais le redire dans le texte. On a aussi envie de mettre en avant, pas forcément des nouveautés, même si des nouveautés qui passeront sous le radar, des séries ou des mangas ou des BD ou des comics, hein, peu importe, avec une thématique un petit peu barrée. Et on en aura une tout à l'heure qui va rentrer pile poil dans ces cases-là. Je vais commencer, si tu me le permets.
Bien sûr, je t'en prie.
Avec un petit album qui a été publié chez Ozu BD. J'aime bien aussi mettre en avant des albums jeunesse. Ça, c'est une première BD. Pas forcément des auteurs. C'est de Mia et Mab. Je ne sais même pas lequel est le dessinateur. Je n'ai pas regardé. Et c'est pas noté. Si, non, bon, bref. De Mia et Mab chez Ozu BD, ça s'appelle Pop et Bulle à la recherche de Paprikat. Je te passe ça.
Merci.
Pop et Bulle, ce sont un petit chien et un petit chat qui parlent. Hein. C'est tout mignon. C'est vraiment une première BD. Il y a des bulles. Et on suit l'histoire de ce petit chat. Alors, je ne sais plus lequel est Pop, lequel est Bulle. Je ne sais pas si tu peux me redire, Fabien.
J'essaie de voir, mais là, pour l'instant,
c'est
ils
ne
le disent pas tout de suite, dès le départ.
C'est pas grave.
Dès que je l'ai, je le dis.
En gros, le petit chat, il est fan d'une BD de Paprikat. Paprikat, c'est un super-héros chat. Et ils décident, tous les deux, d'aller chercher le tome 10 à la bibliothèque. Du coup, on va découvrir comment fonctionne une bibliothèque par l'intermédiaire de ces deux personnages. Comment trouver un livre. Et puis, quelles sont les bases qu'on doit avoir dans une bibliothèque. Par exemple, on ne peut pas vider un rayon juste pour trouver un bouquin et laisser tout ça en vrac. On va ranger derrière. Et c'est tout mignon, c'est très drôle. C'est un dessin qui est tout enfantin, qui fonctionne super bien. Et moi, je trouve ça cool.
Faudrait peut-être que je le donne à mes fils, même s'ils sont un peu vieux pour la lire.
Ouais.
Le côté rangement, ça pourrait être pas mal.
Bah pourquoi ?
Oh bah je sais pas, il y a souvent des mangas qui traînent, sortis à droite à gauche, qui restent dans les lits, qui restent un peu partout avant d'être mis dans la bibliothèque. Mais bon, petite dédicace s'ils écoutent.
Ah bah, on a les mêmes enfants. Hein.
Oui, bah je pense que on a tous les mêmes enfants à mon avis. Et donc j'ai trouvé, donc Bulle c'est le chien et Pop c'est le chat.
Pop le chat. Bah du coup, en fait, voilà, on va suivre ces deux personnages dans la découverte d'une bibliothèque slash médiathèque, parce que il n'y a pas que des livres. Et ils vont rencontrer d'autres personnages. Je vais pas dire que c'est dur à résumer, mais plus j'en dis, plus on avance dans les pages. Et il n'y a pas tant de pages que ça, puisque c'est une première BD. C'est vraiment destiné à un jeune public. Une première lecture, hein, et ça marche très très bien. C'est très drôle. C'est tout mignon. Il y a beaucoup d'albums comme ça que je trouve intéressant, parce que ça prend pas les gamins pour des niais. Et ça passe super bien. Tu voulais
c'est
dire un truc.
Très coloré, très
ouais.
Joli. Moi, j'aime bien le style graphique. C'est rond et tout ça. Et c'est plein de... En fait, les personnages sont tous des animaux.
Oui.
Et moi, j'aime bien ce petit côté-là aussi. Quand on part comme ça, je trouve ça cool. Et ça a l'air vraiment très sympa, ouais. Le côté, la colorisation, moi, j'aime bien. Bah, ça fait très album enfant.
Ouais.
Mais pour le coup,
C'est flashy sans ouais. être ultra saturé, en plus.
Ouais, c'est ça. C'est assez libre. Non, ça a l'air cool. C'est pas long à lire, donc c'est bien pour les enfants
ouais.
qui commencent, en effet, bah, comme ils disent, hein, une première BD. Je pense que c'est parfait. Ça évite qu'ils se perdent dans une lecture trop longue.
Sachant que un truc que j'ai trouvé cool aussi, c'est qu'à la toute fin, on a des pages explicatives sur ce que c'est qu'une BD, par exemple. Et c'est vraiment... C'est une page, une explication sur un objet de la BD.
Ouais.
Et ça marche très très bien, je trouve.
Ouais, je regardais, là en effet, ils ont intitulé ça « Comment lire une bande dessinée ?» Et ils vont expliquer bah, déjà les cases, dans quel sens les lire, bah, un peu les onomatopées, quand c'est du son, ce genre de choses. Et je trouve que c'est plutôt très cool, parce que bah, c'est vrai que c'est pas forcément facile dès le départ, quand on sait pas du tout comment fonctionne une bande dessinée, de savoir pour les enfants dans quel ordre lire les choses.
C'est ça. Alors, le seul truc qu'on pourrait éventuellement lui reprocher, c'est que ces pages explicatives, ça aurait été peut-être intéressant de les mettre au début.
Oui, tout à fait. Mais bon. Mais après, c'est peut-être moins vendeur de commencer par des pages explicatives que par
on est d'accord.
Une histoire.
Et ça, on est
c'est
d'accord.
Toujours un peu. Mais bon, c'est bien de l'avoir mis. Je pense que c'est, voilà.
Je te laisse redonner la référence.
Ouais. Donc, c'est Pop et Bulle de Mia et Mab à la recherche de Paprikat. C'est Ozu BD.
Et c'est très très cool. On va changer de référence, on va faire un truc un peu pour les adultes, on reviendra chez les enfants dans quelques instants. Là, je vais vous parler... Alors, attends, mince, où est-ce que j'ai mis ma présentation PowerPoint ? Ah, voilà, donc, bienvenue chez Smitch, sous-titré Entreprise moderne, est une BD d'Éric Tartrait, publiée aux éditions Fluide Glacial. C'est une BD humoristique au ton légèrement caustique dont le but est de nous faire découvrir les désagréments et chamboulements causés par l'acquisition d'une petite entreprise familiale par un grand groupe multinational américain. Je plaisante, je vais pas vous faire toute la chronique dans le style, ce serait un petit peu lourdingue. Je te passe la BD. L'histoire, c'est celle de l'entreprise Lambertin et Fils, une entreprise familiale de taille modeste, mais florissante, qui va se faire racheter par l'entreprise Smith International. J'ai dit Smith ou Smitch ? Smitch.
Smitch.
J'ai fait une faute de frappe. On passe donc d'une entreprise avec des valeurs familiales à un gros groupe américain dont le but ne sera que le profit. Je pense que vous voyez déjà le grand écart. Alors, sur le papier, l'histoire, c'est pas forcément très très drôle. Enfin, si. La BD est drôle, c'est une BD d'humour. Mais ce genre de rachat d'entreprise, c'est rarement quelque chose qui va satisfaire tout le monde. Et encore plus rarement, les employés. Les directeurs et patrons, eux, ils s'arrangeront souvent avec leur morale à coup d'action ou d'unité monétaire. Mais là, on va découvrir un directeur qui voudrait bien faire. On va le voir tenter de se démener, tant bien que mal, pour que toute cette transition se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais l'évolution... Et les changements vont arriver beaucoup plus vite que ce qu'il ne l'aurait souhaité. Puisque Smitch International, c'est pas forcément une entreprise qui est là juste pour la beauté du geste. Ils sont là avec un objectif et un agenda précis. Ils veulent plus et plus vite. Éric Tartrait va nous offrir une pléthore de gags pour nous montrer l'absurdité et la violence d'un tel changement. Alors, je suis conscient que ceux qui n'ont jamais vécu ce genre de transition risquent de passer à côté de certaines blagues, voire de ne pas les trouver drôles du tout. Alors que les autres riront, jaunes à coup sûr, comme la couverture de l'album, tiens donc, en revivant toute la difficulté et le cynisme de ce genre de situation. Les gags vont s'enchaîner avec plus ou moins de vitesse, mais avec en fond cette trame qui va nous enfoncer dans l'absurde d'une entreprise qui se délite de plus en plus, qui perd son côté familial et ses valeurs pour devenir un pion au service d'une grosse multinationale, avec au milieu de ça le patron. Complètement perdu et qui tente autant que possible de faire passer la pilule de manière discrète et aimable à tous ses salariés. Mais croyez-moi, pour avoir vécu l'intérieur, quand un patron essaie de paraître bien tout le temps, quand un patron essaie de passer sous le tapis certaines infos en pensant que ça se verra pas, eh ben il y a toujours un moment où ça se passe pas bien. Un moment où les salariés ont un tout petit peu l'impression d'être pris pour un con. Bref. C'est une BD qui fera certainement pas rire tout le monde, mais si vous avez eu l'opportunité de travailler dans un open space, je suis sûr que ça va vous plaire. Graphiquement, c'est un dessin qui est plutôt propre. C'est efficace, c'est du très fin avec des aplats de couleurs, quelques ombrages. Ça fonctionne très bien, avec une petite touche de caricature, juste ce qu'il faut pour que ça marche. Puis il y a dans cet album un côté absurde un peu... Ah, je sais pas comment le qualifier, je parlerai de surréalisme. On a certaines cases ou planches qui vont déformer la réalité pour faire passer des messages, toujours avec justesse et décalage. Tout y passe, hein, que ce soit les réunions en visio qui finissent n'importe comment, que ce soit la super technologie qui finit par faire n'importe quoi que ce soit les bonnes idées qu'on essaie d'imposer au forceps à nos salariés. Ma phrase n'avait aucun sens. Et pour en avoir vécu certaines, je peux vous assurer que la réalité dépasse parfois l'exagération. Donc, si vous travaillez en entreprise et que vous voulez vous marrer, c'est une BD pour vous. Si vous avez un collègue qui travaille dans une entreprise semblable, n'hésitez pas à lui offrir cette BD puisqu'il y a de fortes chances que ça lui plaise. Et puis, si on pousse le bouchon un petit peu, pourquoi ne pas l'offrir directement à votre patron pour peut-être lui faire passer un message avec plus ou moins de subtilité. C'était Bienvenue chez Smitch d'Éric Tartrait, publié aux éditions Fluide Glacial. Ton avis, Fabien, que tant que tu as parcouru ?
Il y a l'air d'avoir des choses assez sympathiques. En effet, je pense que c'est un peu caustique.
Ouais, bon, ça gratte.
En même temps, voilà, on sait chez quel éditeur c'est, donc voilà, oui. On sait à quoi s'attendre un petit peu. Mais ouais, ça a l'air cool. Plonger dans le monde de l'entreprise, toujours ça, comme ça, ça peut être assez marrant si on arrive à prendre le recul, quoi.
Ouais, là, je pense qu'il y a des gens qui ont pu vivre ce genre de situation que ça fera pas rire du tout.
Oui, c'est ça. Faut c'est soit avoir réussi à avoir pris le recul avec le temps et puis pouvoir en rigoler maintenant. Mais ça fait, c'est toujours pareil, c'est des satires un peu de société, donc faut voilà savoir en rire.
C'est ça. Je propose une petite pause musicale avec. Alors c'est un peu particulier, mais j'ai trouvé ça bien cool. Ça s'appelle Otiken et le morceau s'appelle Psyché. Tu connais ou pas? Ça te parle pas?
Pas du tout.
Eh ben je te laisse découvrir. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Sandro hütte. Üç gün yok.
Kakayda baktın ya.
Ulan. Kukaka çekelle.
Dara 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 dara. Dara 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 dara. 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 Dara 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 dara.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. J'avais un jingle.
Radio G. 101.5 FM.
Vous êtes toujours dans la case de Seb et vous venez d'entendre Otiken avec Psyché. Ou Psyche, je sais pas comment dire. Si vous avez l'occasion, une fois que l'émission sera finie, allez voir leur clip sur YouTube. On est dépaysé, hein. Je ne connaissais pas ce groupe avant de chercher et j'avoue que j'ai bien kiffé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je te laisse la parole, Fabien, ou est-ce qu'on fait une thématique chat?
Oh bah, comme tu préfères. Soit on peut partir si tu veux sur les chats, et puis j'irai après.
Eh ben moi j'aime bien les chats. Allez. On va commencer avec la partie enfant des chats, avec Ma petite sœur est un chaton. C'est un manga publié chez Nobinobi. C'est un service de presse, je l'ai pas mentionné. Bienvenue chez Smitch, c'était une chronique libre. Pop et Bulle, c'était une chronique libre. Et là, Ma petite sœur est un chaton, c'est un service de presse qu'on a reçu de chez Nobinobi. Ma petite sœur est un chaton, c'est un manga de tranche de vie kawaii destiné à un public plutôt jeune. 8 ans et plus, thème kawaii, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur la couverture. Comme dans la case de Seb, on prend soin de vos étagères, c'est une série qui sera complète en 3 tomes. De quoi ça parle? Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, j'avais prévu de parler d'album What the Fuck, et il aurait clairement eu sa place dedans, mais comme j'ai pas encore fait le bon jingle, on va faire sans, et c'est pas une...
On va voilà. dire que c'est dedans, c'est pas grave.
Voilà. Alors, le synopsis, il est assez simple. Quoique. Alors, il s'agit d'un jeune homme humain qui, au décès de ses parents, a été adopté par une famille de chats. Et donc, par conséquent, il devient le grand frère d'une petite chatte. Je précise, les chats ici sont anthropomorphes, sinon ça aurait été peut-être un petit peu trop bizarre. Bon, on était plutôt assez près. Hein. Mais ça, mis de côté, si on accepte cette situation, c'est cool. Petit détail supplémentaire, dans cette famille de 4, papa, maman, le grand frère, la grande sœur, il n'y a que 2 personnes qui s'expriment oralement. Notre héros et la maman. Alors on peut facilement imaginer que le papa est simplement taiseux et la petite chatte trop limitée niveau vocabulaire pour s'exprimer. Bref, on va suivre la vie du jeune homme qui se nomme Nekota et qui cumule école et petit boulot. En parallèle, nous avons sa petite sœur qui interagit avec lui et lui voue une grande passion. Encore un détail, elle a un comportement un petit peu original puisqu'elle se comporte dans un mix humain-chat. Bah, c'est difficile à expliquer. Elle se comporte globalement comme un chat, mais elle a des occupations humaines. Elle est capable de jouer avec un jouet pour chat, mais de se passionner pour un groupe de J-pop dans la foulée. Ouais. Bref. Elle a aussi certains traits de caractère très chat que nous n'aurions peut-être pas ou peu chez des humains. Enfin, pas avec cette intensité. Elle est ultra possessive envers son frère et elle lui voue une passion extrêmement envahissante. Pour Nekota, de son côté, c'est un peu complexe à gérer puisqu'il ne sait pas vraiment comment appréhender cette petite boule de poils et de tendresse. C'est aussi déstabilisant pour le lecteur puisqu'on aurait envie de se comporter soit avec elle comme un chat ou un humain, mais le mix des deux donne une sensation très perturbante. Mais si on passe outre ça, c'est un manga qui est rigolo, qui est très mignon. C'est un manga tranche de vie où au final, les actions ont peu d'incidence, mais renforcent surtout les liens entre les personnages. Ça parle de famille recomposée. Et de chats. Humains. Mais c'est kawaii, c'est mignon, c'est innocent, ça fait pas de mal. C'est un humour léger, plutôt frais. Visuellement, le style est forcément assez kawaii et rond. Donc oui, on a des chatons mignons, hein, donc de base. Hein. Et le mélange des genres fonctionne. On se pose pas de questions pourquoi il y a des humains dans le monde des chats, on se pose pas pourquoi il y a des questions de chats anthropomorphes, ça passe tout seul. Et ça fonctionne bien. Mais on passe un moment sympathique, chill. Mes enfants ont aimé, donc forcément un signe de qualité. Ou je sais pas, je suis pas sûr, mais bon. En gros, ça passe bien, c'est frais. Faut se laisser porter, c'est cool. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah, comme je te disais, de moi-même, je serais pas allé sur ce genre de titre-là, parce que le dessin, le côté rond, très kawaii, le côté enfantin, c'est clairement pas...
T'es pas le public, hein,
de toute façon. Je suis pas du tout le public, clairement, ça c'est sûr. Après, pourquoi pas tester de temps en temps ce genre de choses, de les lire et de se faire réellement un avis. Voilà, en parcourant comme ça, bon, je me dis oui, ça doit être assez léger, ça doit être marrant, ça doit pouvoir plaire globalement aux enfants, quand même, je pense. Mais donc sinon, bon voilà, moi de moi-même j'irai pas parce que je suis pas la cible. Mais comme on disait, il faut aussi des titres pour tout le monde. Et je pense que ça, clairement, c'est des titres qui peuvent plaire aux enfants.
Puis, comme tu le disais, l'humour est plutôt... Là où on a certes, parfois des albums où l'humour va pouvoir être intergénérationnel, là, on est clairement sur un humour qui va plutôt se destiner aux enfants et qui sera un petit peu hermétique pour les adultes.
Ouais, ok.
Donc voilà.
Oui, mais il faut cette cible-là aussi, hein, de toute façon. Il y a plein d'enfants qui lisent des mangas. Oui. Donc,
il faut qu'ils lisent, justement.
Et c'est important de lire, donc c'est bien.
Lisez. Peu importe ce que vous lisez, on juge pas. Lisez des trucs, c'est hyper intéressant.
Et puis, sincèrement, je préfère qu'un enfant de 8-10 ans aille sur ce genre de choses que sur d'autres mangas qui sont pas pour leur âge.
Aussi. Effectivement. Oui, c'est une autre façon de voir les choses. Effectivement. C'était Ma petite sœur est un chaton. C'est de Senko et c'est publié aux éditions Nobi Nobi. On va rester avec des chats, mais pas les mêmes. Hein, t'as vu le bouquin, tu
fais... Oui, moi j'ai vu okay. Le bouquin.
On va partir avec Les chats d'Ultar de Gutanabe aux éditions Kiun et c'est une chronique libre. C'est pas un SP. Mais je préfère vous prévenir, les auditeurs, la critique qui arrive n'est absolument pas objective. On parle des chats d'Ultar par Gutanabe. C'est un ouvrage qui est dans la collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft des éditions Kiun. Je te le passe.
Ouais. Hop.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette collection, petit résumé. Déjà, c'est un peu un drame parce que c'est une collection absolument géniale, mais j'ai dit que j'étais pas objectif. Bref, présentation. En premier, l'aspect des ouvrages. Chaque ouvrage a été créé de façon à ressembler à un vieux roman en cuir. Et un cuir un petit peu chaud façon peau humaine. Pour ceux qui connaissent l'auteur Lovecraft, dont le nom est dans la collection, ça doit donner un petit peu de sens. Chaque couverture arbore également une couleur qui lui est propre, qui donne un certain style dans sa globalité, avec pour seul autre coloris un noir profond façon gravure. Notons aussi que tous les éléments de texte sont incrustés dans cette même couverture. Déjà, ça fait un bel objet à avoir dans sa bibliothèque. Et si je vous dis que la collection est consacrée à l'écrivain d'horreur américain Howard Phillips Lovecraft, j'aurais normalement pas grand-chose à ajouter. Mais vous allez me dire, et peut-être Fabien, tu vas me dire, de quoi ça parle, les chats d'Ultar ?
En effet, parce que celui-ci, je ne sais pas de quoi il parle.
Ah ah ! Eh bien, dans cet ouvrage, vous ne trouverez pas une, pas deux, mais trois histoires. Eh oui, je vous ai vu la surenchère. En effet, il s'agit d'un recueil de trois nouvelles de l'auteur qui ont toutes pour particularité de se dérouler dans les contrées du rêve. Mais c'est quoi les contrées du rêve, me direz-vous, comme Fabien qui m'interroge avec ses yeux ?
Ah, je suis tellement plongé dans le bouquin que finalement j'écoute d'une oreille. Mais bon, voilà.
Eh bien, je vous répondrai que vous posez beaucoup de questions ce soir, mais ok. Pour faire simple, il s'agit d'un monde onirique que les rêveurs peuvent rejoindre sous certaines conditions, sous forme éthérée ou physique, selon le rêveur. Mais je m'éloigne un peu du sujet, non ? Je disais donc trois nouvelles. Les chats d'Ultar, qui donnent son nom au recueil, Séléphaïs et Les autres dieux. Commençons avec la nouvelle du titre, Les chats d'Ultar donc. Une légende raconte que dans la ville d'Ultar, il est interdit de tuer ou blesser un chat. Un jour, une caravane de marchands arrive dans la ville et un des jeunes garçons du cortège va voir son chat favori disparaître. Il va alors invoquer une malédiction pour châtier ceux qu'il pense responsables. Dans Séléphaïs, nous allons suivre un homme parti à la recherche de l'extraordinaire cité de Séléphaïs qu'il a aperçu une fois en rêve. Au cours de ses tentatives, il va de plus en plus s'enfoncer dans des songes quitte à laisser son corps physique dépérir. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Et dans la troisième, on nous invite à suivre un prêtre et son apprenti dans un périple qui va les conduire sur une montagne où doivent se retrouver des dieux particuliers. Le but de ce voyage difficile, pouvoir contempler les dieux en face. Est-ce seulement possible ? Quelle réaction auront les dieux face à cette intrusion ? Ces trois nouvelles sont passionnantes et ont chacune un sujet original, mais arborent toutes ces sujets sous l'angle de la forme d'un conte. Encore une fois, Gutanabe prouve qu'il a bien compris l'œuvre de Lovecraft avec des dessins très sombres et évocateurs. J'avoue avoir du mal à déterminer laquelle des histoires est ma préférée. Les chats d'Ultar est plutôt classique dans sa narration, mais apporte une petite touche d'horreur bienvenue dans sa fin, tout en restant bien angoissante tout du long. Celle de Céléphaïs apporte un souffle épique dans le voyage à toute la quête initiatique avec un twist final qui pourra laisser certains pantois. Les autres dieux est sans doute celle dont la morale est la plus présente et claire. Laissons le domaine divin tranquille au risque de subir son courroux. Vouloir tout connaître et tout voir risque fortement de nous brûler les yeux. Graphiquement, rien à redire. La façon dont Gutanabe a de dessiner les personnages et leurs yeux donne la sensation d'observer les statues jusqu'au tréfond de leurs esprits. Comme toujours, c'est beau, très propre, avec des contrastes très forts, des noirs très noirs, des blancs très blancs. Et c'est peut-être une impression de ma part, mais j'ai trouvé ce tome un peu plus lumineux que les précédents, ce qui sied quand même beaucoup à la clarté des contrées du rêve. Fabien, tu avais pu découvrir des planches en avant-première lorsque tu étais allé à Angoulême, mais est-ce que tu connaissais Lovecraft avant ?
Alors oui, parce que moi j'en ai aussi quelques-uns à la maison de l'adaptation. Alors, je connais Lovecraft par Gutanabe. Je
connaissais pas, tu connaissais pas les textes
avant. J'en avais déjà entendu parler comme étant à l'origine d'énormément de choses au niveau cinématographique. C'est une référence pour beaucoup de réalisateurs et tout ça. Mais je ne connaissais pas plus. J'ai jamais lu de Lovecraft, le texte en tant que tel.
Ok.
Mais par contre, j'ai lu d'autres œuvres, des chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe. Moi, j'adore le dessin. Clairement, là, on est sur, je dirais, une masterclass. Clairement, c'est un style très spécial, en effet, hein, mais on ne peut qu'être admiratif sur la qualité. Clairement, on peut ne pas aimer, hein, je pense que c'est possible, parce que c'est un trait particulier. Mais par contre, on ne peut pas être indifférent au style,
oui,
je pense.
Je suis d'accord avec toi.
Et donc, du coup, ces œuvres-là, je ne les connais pas, mais moi, je sais que j'apprécie beaucoup la façon dont il représente, je pense, cet univers de Lovecraft, c'est-à-dire ce côté ténébreux, de monstres, mais sans jamais voir réellement ce qui se passe. C'est une ambiance, en fait. On n'est pas sur de l'horreur à vouloir faire peur avec des gros monstres pour faire crier ou ce genre de choses, mais plus pour être insidieux, pour voilà, vraiment plonger dans les ténèbres. Clairement, c'est ça, et c'est, je trouve qu'il le fait très bien. Et donc ça, là, ce sont des chats qu'il ne faut pas mettre dans les mains des 8-10 ans,
non,
par exemple.
Effectivement, c'est pas du tout pour eux.
Et donc, c'est... Et Kiyun fait un travail magnifique sur l'édition. Dans les bibliothèques,
c'est trop bien.
C'est classe. Il y a pas à dire autre chose. Le simili-cuir, il est vraiment beau. Ils ont fait un travail magnifique là-dessus.
Alors, peut-être petit bémol, c'est une collection qui est un petit peu chère, mais je trouve qu'elle vaut largement son prix.
Bah, elle est plus grand, un format un peu plus grand. Elle a une qualité de couverture, de papier, parce que le papier, il est blanc
aussi,
de chez blanc. Hein.
Ah,
c'est-à-dire
ouais,
que vraiment, ça fait ressortir les dessins. Ça met vraiment en lumière le travail de Lovecraft. Et clairement, ils ont vraiment très bien bossé sur toute cette collection.
Perfect. Voilà, si comme Fabien, vous êtes déjà amateur de cette collection, ou si vous avez juste envie de découvrir Lovecraft ou cette collection, je trouve que Les Chats d'Ultar, c'est un point d'entrée qui est quand même plutôt intéressant, parce qu'on peut picorer chacune des nouvelles, et c'est trois axes différents qui montre quand même la façon dont travaille Lovecraft, et c'est vraiment cool, je trouve, à essayer. Donc, et c'est le plus récent qui vient de sortir. Donc voilà. Il y en a qui sont beaucoup plus mastoc et plus complexes en termes d'histoire.
Oui, tout à fait. Ouais. Il y en a en plusieurs tomes. Il y en a où il y a deux tomes.
Les montagnes sont en deux tomes.
Les montagnes hallucinées.
L'appel de Cthulhu doit être en deux tomes aussi.
Ouais, c'est possible. Je ne sais plus exactement. Parce que je sais que moi, c'est celui-là.
Innsmouth doit être en deux tomes aussi. Il y en a plusieurs.
Ouais, il y en a plusieurs, ouais.
Sachant que si vous êtes un petit peu chanceux, je ne sais pas si c'est des packs qu'on peut toujours retrouver, mais ils avaient fait des collecteurs en coffret.
Ah, ils avaient fait des coffrets à un moment, ouais, tout à fait.
Je crois que les coffrets devaient être aux alentours de 100 balles quand même, 99 euros.
Ouais, mais il y a du coup 3 ou 4 séries, je crois, dedans.
Ouais.
Donc c'était sympa s'ils avaient sorti ça pour les périodes de fête.
Ben forcément. Oui, forcément. Hein.
Surtout que ça s'y prête vraiment au niveau... C'est un bel objet.
Ouais.
C'est vraiment un bel objet en plus.
Donc, si vous voulez l'offrir à des gens qui sont fans de Lovecraft et qui lisent pas de BD, ça c'est très très bien. Je pense que vous allez leur faire changer d'avis. Hein.
Là, on sort du cadre du manga classique avec ce genre d'œuvre, clairement.
Ouais.
C'est quelqu'un qui dit j'aime pas le manga, on lui donne ça. Je pense qu'au départ, bon, à part il y a le sens original, mais
ouais,
il pourrait se dire mais on est sur un mix de BD, manga et avec des traits tellement magnifique que du coup, je pense qu'on fait vraiment abstraction au côté manga sur ce genre de lecture-là. Et en plus, le thème veut aussi qu'on est sur autre chose que ce que le grand public attend du manga aussi, quoi.
Complètement. Et un truc que je dis toujours, c'est que sur la façon dont on appréhende un livre, on le prend parce que la couverture nous a attirés, on le lit parce que le sujet nous intéresse, on le finit parce que c'était bien. Là, clairement, tout va dans le même sens. Et la couverture, l'objet, nous va donner aux gens envie de le prendre. C'est obligatoire.
Mmh, tout à fait. Rien que la sensation dans les mains de la couverture, elle est super sympa.
C'est trop bien. voilà, je te laisse redonner les références, tiens, oui. Du coup.
Donc, c'est Les Chats d'Ultar par Gutanabe dans la collection Les Chefs-d'œuvre de Lovecraft aux éditions Kiun.
Et merci. Et c'était tout pour la partie chat.
Oui.
C'est pas mal quand même.
Des chats, on pourrait en faire tous les 15 jours si on voulait, hein, tellement il y en a sur les chats.
On pourrait faire un jingle chat et faire un album chat à chaque fois.
Oh.
Ça sera peut-être un peu relou. Est-ce que tu parles de la tienne et puis on fait celle en combo après?
Ouais, on fait comme ça. Ça marche.
Allez, on fait comme ça.
Allez.
Allez, attention, d'abord, on va se faire le petit générique de Fabien qui est là. Kaizoku-oni! Kore wa nare!
Nani? お前はもう死んでいる。
Ça décrase les oreilles.
Exactement.
Alors, de quoi tu nous parles, Fabien, ce soir?
Alors, ce soir, je vais vous parler d'un auteur que j'apprécie énormément. Je vais vous parler de Pineapple Army, de Naoki Urasawa et Kasuya Kudo.
T'en as parlé une ou deux fois de Urasawa, je crois.
Ouais, j'ai déjà dû en parler. Je sais plus lesquels c'était, j'ai un doute.
C'est pas grave.
Je sais plus.
Mais il me semble que t'en avais déjà parlé.
C'est possible. Parce que bon, j'ai beaucoup de ses œuvres. Parce que j'aime. Bon, j'ai dû parler de Pluto, peut-être. Ou on en avait parlé de Pluto suite à la sortie sur Netflix.
Exact.
On en avait parlé de Pluto à ce moment-là. Et donc là, Pineapple Army. Alors, c'est une très vieille série, puisqu'elle est parue au Japon en 1985. Donc,
wow.
On est vraiment sur une ancienne série. Mais du coup, qui vient d'être rééditée par Kana. Et donc, c'est fini en 3 tomes. On a les deux premiers là qui sont sortis. C'est un service presse qu'on a reçu. Je tenais à le souligner. J'en suis d'ailleurs très content.
Alors, je précise quand même que on prend soin des étagères des gens. Il y a que 3 tomes, mais voilà les tomes.
J'allais y venir en effet.
Désolé.
Ah non, t'inquiète, il y a pas de problème. C'est que là, c'est 3 tomes, mais ils ont condensé. C'est-à-dire qu'un seul tome, c'est 600 pages. Donc, oui. On est sur l'équivalent à peu près de trois tomes.
Des bonnes étagères.
Donc là, ça fait des bonnes étagères. Mais il y en a que 3, donc ça va, ça passe. Et donc cette série-là, elle était venue en France par Glénat en 98, mais il y avait eu un seul tome de sortie à l'époque et ça avait été arrêté.
Ok.
Donc il n'y avait jamais eu la suite. Donc là, ils ont décidé, Kana a dû récupérer les droits et ils ont fait la série complète. On a les deux premiers et le troisième qui va arriver dans pas longtemps, là, en courant 2025.
T'avais eu la raison pour l'arrêt ou
non? Je sais pas du tout. Okay. Alors est-ce qu'à l'époque ça n'a pas fonctionné parce que c'était quand même en 98, donc on était sur une période où le manga était pas encore avec l'essor qu'on connaît maintenant, Urasawa était peut-être pas encore aussi connu que ça, même s'il a fait des énormes titres, mais qui ont dû arriver peut-être un petit peu après. Donc je sais pas exactement pourquoi celui-ci a pas fonctionné, mais je pense que là, pour le coup, avec sa renommée et tout ça, je pense que celui-ci doit bien plutôt pas mal fonctionner maintenant. Donc de quoi parle Pineapple Army? Donc en fait, on va suivre Jet Goshi, qui est un ancien mercenaire militaire, un peu les deux en fait, on sait pas exactement. Et il va être à profit en fait son expérience dans son nouveau travail, qui est de apprendre aux personnes qui font appel à ses services à se défendre. Donc ses missions vont l'emmener sur tous les continents et sur tout type de conflits. Et du coup, bien qu'il mette tout son professionnalisme à leur service, ses clients sont bien souvent imprévisibles et cela ne se termine pas sans casse. Donc ça, c'est okay. Le petit résumé de l'éditeur que j'ai voulu reprendre comme ça. Mais pour rentrer un peu plus dans le détail, en fait, donc là on va se retrouver déjà avec les grands débuts en fait d'Urasawa. Donc c'est vraiment sa toute première longue série qu'il a faite, puisque 85, hein, et avant ça c'était que des petites choses qu'il avait fait dans des magazines de prépublication, mais pas de longue série. Et donc là on va pas être sur une série complexe comme on peut connaître d'Urasawa, avec un scénario très abouti ou comme on peut voir dans Monster ou 20th Century Boy, mais on va être sur plein de petites histoires.
Ok.
Donc ça va être une suite de ouais, mais toujours avec ce personnage principal. C'est lui qui est au centre de tout.
Parce que quand on voit l'engin, on se dirait que c'est une grosse histoire fleuve.
Et ouais, mais pas du tout. En fait, ça peut même être pris pour dire tiens, je vais me lire 2-3 histoires ce soir et puis je peux même prendre un autre bouquin après et on peut y retourner sans aucun souci parce qu'il n'y a pas de fil rouge. Le seul fil rouge, c'est lui.
Tu crois qu'on pourrait prendre le tome 2 par exemple et le commencer directement au tome 2?
Eh ben écoute, je pense que ça serait pas plus gênant que ça. Parce que sincèrement, à chaque début, c'est lui qu'on voit et il va sur une nouvelle mission, entre guillemets. Donc, ça serait pas plus gênant. Alors, on retrouve de temps en temps des personnages qu'on a déjà vus avant, qui reviennent dans d'autres contextes. Mais je ne pense que ça ne gênerait pas du tout.
Ok.
Donc, du coup, voilà, c'est assez frais, c'est simple à lire. On va être... pour le coup, c'est vraiment le côté militaire qui va ressortir. C'est assez sympa pour ça, parce que lui, c'est vraiment, on sent qu'il est très très fort dans ce qu'il est. Il est souvent classé comme un des meilleurs mondiaux dans son domaine. Donc voilà, on est sur vraiment la pointe de la pointe. Et mais il va toujours être là pour. Il a arrêté le côté militaire et mercenaire. Moi, je sais pourquoi maintenant, parce qu'il y a une histoire où il l'explique. Et du coup, il est vraiment là à chaque fois juste pour que les gens apprennent à se défendre. Alors des fois, il intervient un petit peu quand même, parce qu'on est sur un personnage plein de flegme, assez calme et tout ça, mais avec un sens moral quand même assez fort. Donc dans certaines situations, il va quand même intervenir un petit peu pour aider. Mmh. Même si au départ, il est pas là pour mettre la main vraiment dans le cambouis, mais pour que les personnes arrivent à le faire toutes seules.
Ok, il est pédagogue le gars.
Ouais, exactement. Il est là pour ça. Alors après, il se fait payer, hein. Il fait pas ça gracieusement ni rien. Mais on sent que son sens moral est important et qu'il fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à un autre récit d'Urasawa qui est Master Keaton. Je sais pas si tu connais.
Je connais de nom, je vois la couverture.
Donc moi, c'est une série que j'aime beaucoup aussi, mais ça, c'est très proche dans le sens où on est aussi sur plein de petites histoires courtes où là, cette fois, on suit un ancien agent du SAS qui est un expert en assurance. Donc il va enquêter pour des assurances, mais et qui est aussi un côté très calme. On a l'impression presque bené, alors qu'il est très 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 intelligent et hyper fort. Et c'est ce côté-là, je trouve que ça se rapproche un petit peu de ça sur la façon dont c'est présenté. Après côté dessin, bon bah là il y a voilà, on retrouve tout de suite la patte d'Urasawa. Quiconque connaît Urasawa voit déjà la couverture, c'est que c'est lui parce qu'il a une patte artistique qu'on reconnaît parmi toutes.
Je me permets, je ne le connais pas suffisamment, parce que je n'en ai pas lu suffisamment, mais j'ai l'impression qu'il a un format de visage aussi.
Exactement.
Qu'on peut transposer.
On peut le retrouver dans chacun. Ce format de visage qu'on voit sur la couve là, que je montre à Seb, on le retrouve dans quasiment toutes ses œuvres. Donc okay. C'est pour ça qu'il a un trait, un style qui se reconnaît, même les visages des femmes, on reconnaît tout de suite quand c'est lui qui dessine. En général, une fois qu'on a lu une ou deux séries, après, on peut facilement reconnaître. Et là où j'étais assez impressionné, c'est que malgré le fait que ce soit sa toute première série, donc qui date vraiment d'il y a longtemps, je trouve que les dessins sont vraiment très propres et soignés, c'est précis. Le découpage, il est nickel, on ressent la dynamique du récit et tout ça, ça marche vraiment bien. Moi j'ai beaucoup aimé cette première lecture, ça fait quand même 600 pages, et je l'ai lu en deux fois. Parce que j'étais pris dedans et du coup ça se lit bien. On a envie de découvrir les petites histoires au fur et à mesure. Mais on peut aussi, comme je disais tout à l'heure, se dire bah là je vais en lire deux et puis demain j'en lirai deux autres et ça pose aucun problème. On sera pas perdu ni rien. Et sincèrement, on parlait donc le fait que ce soit 600 pages et c'est quand même, faut le souligner, seulement 18,95€. Donc c'est quand même l'équivalent de 3 tomes pour moins de 20€. Je trouve que là-dessus ils ont été plutôt cool. Chez Kana. À mon avis, ça n'a pas dû être quelque chose qui a dû coûter trop cher de récupérer les droits, donc ils en font profiter un peu les lecteurs, et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc, pour ceux qui connaissent Urasawa, je leur conseille d'aller dessus, parce qu'ils seront pas ils devraient aimer normalement, tout en sachant qu'il faut pas s'attendre à un récit du genre de Monster ou 20th Century Boy, mais plutôt dans le style de Master Keaton, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, ça peut être une entrée pas chère, qui coûte pas énormément, en 3 tomes, et j'ai envie de dire, si on n'a pas envie d'aller au bout des 3 tomes, vu que c'est des petites histoires, on peut s'arrêter avant si on n'a pas envie de connaître toute l'histoire du personnage, mais on en apprend quand même petit à petit sur lui et ce qu'il a fait dans le passé, pourquoi il arrête au fur et à mesure malgré tout. Même s'il n'y a pas de fil rouge entre les histoires, c'est le personnage qu'on découvre quand même au fur et à mesure.
Ok.
Voilà.
Petite question, du coup, ça a un certain âge et tu trouves que c'est vieilli ou pas?
Eh ben non. En tout cas pas pour moi, parce que c'est le genre de dessin qui me plaît. Et puis même le thème, les thèmes abordés, tout ça, je trouve que ça se ressent pas que ça date de 85.
C'est la sensation que ça me donnait à le voir de loin, que c'était, on peut lire maintenant, on n'aurait pas vu.
Non, vraiment, on n'a pas cette sensation comme si tu prenais, par exemple, on va dire un Okuto no Ken dans les vieilles éditions où là on peut avoir l'impression que c'est un peu vieilli, alors que bon, ils ont fait des nouvelles éditions maintenant, donc ils sont très belles et donc, en effet, ce côté vieillissant, on l'a moins.
Ouais, mais et le dessin, il fait encore hyper moderne.
Mais oui,
je pense qu'il était vraiment très précurseur, oui, en fait.
Urasawa a vraiment eu ce trait tout de suite de modernité qui fonctionne très bien et que j'apprécie beaucoup, moi. D'ailleurs, foncez, hein, tout ce que fait Urasawa, c'est génial.
On le note. Je te laisse redonner les références.
Oui, donc c'est Pineapple Army aux éditions Kana et c'est par Naoki Urasawa au dessin et Kasuya Kudo au scénario.
On va se faire une dernière petite pause musicale avec très peu de subtilité puisque je vous mets Poésie Zéro et la chanson Fumigène. Moi, ça me fait marrer et ça passe très bien. Allez, on se retrouve tout de suite sur le 101.5 de Radio G.
www.radio-g.fr.
Allez, Poésie Zéro avec Fumigène sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb. On arrive dans la dernière ligne droite de l'émission. Comme si on se faisait des marathons. Mais en fait, non, on est détendu. Hein. Non, t'es détendu,
ah,
toi,
on est très détendu. Ah,
oui, voilà. Tellement détendu qu'on va parler ensemble, du coup, d'un manga qu'on a lu tous les deux. On a dit qu'on essaierait de faire ça pas mal aussi. Alors, manga, BD, enfin, on va trouver. Hein.
Oui, c'est ça. Histoire de changer un petit peu, de parler. Plus, ouais. Voilà, comme ça, du ressenti de chacun, voir un peu ce qu'on en a pensé.
Et là, on va parler d'un manga où on aurait presque pu inviter un de tes enfants ?
Oui, exactement. J'ai un de mes deux fils qui a beaucoup aimé. Et donc, du coup, je vends la mèche.
Mais
on
de quoi donc il s'agit ?
De Secret Bodyguard de Masamitsu Nigatsu aux éditions Pika. Donc là, on est sur un shonen, clairement. Ouais. Vraiment shonen d'action assez classique.
Mais avec un petit peu de Chojo.
Oui, exactement. Ouais, c'est ça.
Désolé, je te casse tes effets.
Mais non, t'as raison, c'est ça. Mais non, c'est le but. C'est là que c'est bien. Non, non, en effet, on est sur un mixte shonen d'action comédie aussi, hein, parce que ouais. C'est un peu. En fait, c'est un mix de trois choses. Hein. Ça va être le shonen, le shojo et le gag.
Ouais, c'est ça. Ouais, il y a tout ça.
Il y a un peu de tout ça. C'est un mix de ça.
Même si la partie gag est un peu moins.
Elle est un petit peu moins en avant. Même s'ils essayent quand même. Par des caricatures par moment quand même, j'allais de mettre cette chose là. Mais est-ce que tu veux que tu fais le pitch ou je le fais comme tu préfères?
Alors j'avais préparé un pitch, mais je sais pas si je m'en rappelais. En gros, on va suivre un jeune garçon qui a pour mission de protéger une jeune fille parce qu'il est dans la même classe. Voilà.
Oui, c'est ça. Ouais, globalement, c'est ça. C'est lui, c'est un voyou, hein. Vraiment.
Ouais, c'est
voyou,
la racaille.
Il a une amie d'enfance qu'il a passé vraiment toute son école avec elle. Et il apprend qu'en fait, elle est la cible de dangereux assassins. Et en fait, il y a un grand chef yakuza qui supplie de devenir son garde du corps. Clairement, voilà.
Donc, parce c'est que c'est l'héritière illégitime, en fait, du clan. Hein,
c'est une héritière illégitime, et vu qu'il va y avoir une bataille pour avoir l'héritage, bah, elle, sans le savoir, eh ben, elle va être la cible d'assassins. Et donc là, le but, ça va être de la protéger, mais elle, elle ne sait même pas qu'elle est la cible, donc, et elle ne doit pas s'en rendre compte.
Oui, c'est ça, faut la protéger sans qu'elle devine qu'elle fait partie, qu'elle est la fille illégitime d'un mafieux.
Exactement. Donc lui, il est très costaud, très fort. On sait pas exactement pourquoi.
Non, c'est vrai.
Mais c'est la racaille qui sait très bien se battre et qui arrive à la défendre sans qu'elle s'en rende compte. Et forcément, lui, il y a l'amourette, il est amoureux d'elle. Voilà. Et donc c'est là où on a un peu le côté shoujo qui va arriver. Et aussi des petites amourettes qui vont se faire à droite à gauche. Avec le milieu scolaire tout au long du titre, avec une classe un peu particulière.
Mais justement, on peut parler de ce petit twist quand même qui arrive très tôt.
Oui, il arrive très très vite. Ouais.
C'est qu'on a ce personnage qui est chargé de protéger cette jeune fille. Alors, tu parlais de l'amourette, c'est l'amour vache parce qu'ils n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Elle le pourrit systématiquement parce que il a un comportement trop violent. Lui, il l'envoie péter aussi très très fortement, très régulièrement. Et le petit twist, c'est qu'il n'est pas tout seul en fait à protéger cette jeune fille. Toute la classe est là pour la protéger.
C'est ça. En fait, on apprend que toute la classe, ils ont été entraînés, eux, carrément exprès pour ça. Donc, ce sont des professionnels pour la protéger sans qu'elle le sache. Et donc, du coup, ils sont presque un peu contre notre héros aussi parce que ils trouvent que lui, il n'a rien à faire là et que ça devrait pas être lui et que c'est pas un pro, quoi. Sauf que il arrive à prouver qu'il arrive pas si mal que ça à se débrouiller pour la protéger.
Et j'imagine quand même que vous écoutez un petit peu ce qu'on vous raconte depuis tout à l'heure, vous vous posez peut-être une question, la même question que le reste de la classe. Pourquoi lui, il est là? Parce que si tout le reste de la classe, ils sont 22, ce sont des assassins ou des professionnels de la protection rapprochés, pourquoi on prend un mec dont c'est pas le métier? Et ça, on va pas vous dire pourquoi. Je vous laisserai découvrir.
Exactement.
Ton ressenti sur ça, ou peut-être le ressenti de ton fils, que peut-être il t'en a parlé.
Lui, ce qu'il m'a dit, il m'a fait, oh papa, c'est trop bien, il faut qu'on continue la série. Voilà, ouais. Globalement, il m'a dit ça comme ça, donc j'ai fait, écoute, je vais le lire aussi, et puis j'ai dit, pourquoi pas, moi, il n'y a pas de souci, on continuera. En plus, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est une série assez courte pour un shonen, puisqu'elle est finie en 12 tomes au Japon, et qu'on en a deux pour l'instant de sortie en France.
C'est plutôt bien.
Non, c'est cool. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça sympa. C'est une lecture légère. C'est pas le shonen de l'année. On va pas se mentir là-dessus. Ça se lit bien. J'ai souri par moments. Les scènes d'action sont bien faites. Le dessin est plutôt bien aussi. Avec une particularité un peu sur les visages. Où de temps en temps, c'est vrai qu'on a des aspects shoujo qui ressortent plus, des fois un peu plus shonen, un peu plus avec des traits plus carrés. Donc c'est un mixte, il faut s'habituer. C'est vrai que ça peut être un peu, je pense que c'est fait exprès pour du comique de situation aussi, parce qu'on va passer d'un style à l'autre selon les cases et en fonction de l'action qu'il y a. Mais les scènes de bagarre sont plutôt bien, c'est fluide, on voit ce qui se passe. Donc moi j'ai passé un bon moment à le lire. Globalement, je me suis dit c'est cool. Mon fils veut les continuer, on va les continuer, puis je les lirai avec lui et ça sera très sympa pour en discuter.
Je suis complètement aligné avec ce que tu as dit, parce qu'on passe pas un mauvais moment. Je trouve que le mix shoujo shonen marche bien, parce qu'on a des moments un petit peu de romance. Je trouve que le niveau graphique, on va quand même lorgner un petit peu plus du côté du shoujo, sans avoir le côté très filiforme qu'on peut retrouver dans beaucoup de séries. Et on a plein de personnages qui ont beaucoup de style. Mais sans être dans l'extravagance, c'est une extravagance contrôlée. Les mafieux, c'est du mafieux de film.
Ouais, exactement.
Et ça marche super bien.
Et les scènes d'action sont quand même bien costauds. Il y a des passages où ça envoie bien, donc c'est plutôt cool pour ça. Après, j'ai pas encore lu le tome 2, à voir vers quoi ça va. Tu m'as mis un petit bémol peut-être tout à l'heure quand t'as commencé, mais on verra ce que ça donne.
Je savais pas combien il y avait de tomes au total. À voir. Quel est le renouvellement? Puisque dans le premier tome, tu parles de scène d'action. Ce qui est assez cool, c'est que toute la thématique, c'est qu'on doit défendre une jeune fille sans qu'elle s'en rende compte. Dans des milieux scolaires, Je vous laisse imaginer une classe entière qui essaie de défendre une gamine dans une bibliothèque sans faire de bruit et sans qu'elle se rende compte qu'on essaie de la tuer.
Et sachant que ceux qui essayent, c'est... ils sont pas très discrets.
Ils ont pas envie d'être discrets, ils ont rien à faire.
Ils n'ont rien à faire, exactement.
Et ça marche bien, et c'est super cool. Je veux pas vous spoiler, mais un autre passage qui se déroule dans un temps limité, et j'ai trouvé ça juste génial, parce que ça marche trop bien.
Ouais, c'est des ficelles scénaristiques qui fonctionnent bien. C'est une lecture plaisante. Donc voilà, pour les jeunes et tout qui aiment bien les chaînes d'action, ça fonctionne. Je pense qu'il y a pas de souci là-dessus.
Mais effectivement, comme tu le soulignes, à voir comment dans les 12 tomes ça va arriver à se renouveler.
Exactement.
Pour éviter de tourner en rond. On verra.
C'est ça. Je sais pas si toi ça t'a fait penser un peu à ça, mais moi par rapport au le côté milieu scolaire, le côté assassinat et tout ça, j'ai pensé un peu à Assassination Classroom.
Ouais.
Parce qu'on est aussi un peu sur, je trouve, ce côté à essayer d'être drôle aussi en même temps, avoir ces deux parallèles là. Après, je mettrais pas ça au même niveau non plus, parce qu'Assassination Classroom, ça reste quand même une œuvre qui a beaucoup marqué beaucoup de monde et une très bonne œuvre. Là, je sais pas si ça se trouve, peut-être que ça va aller de mieux en mieux et que ça va vraiment être très bien. Mais moi, ça m'a fait penser un petit peu à ça.
Je suis pas persuadé qu'on ait les mêmes réflexions sociales dans Secret Bodyguard que ce qu'on peut avoir dans Assassination Classroom.
Je ne pense pas non plus. Le fond va rester, je pense, assez neutre, entre guillemets. Il va pas y avoir plus que ça en arrière-fond par rapport à Assassination Classroom, en effet.
Après, ce sont deux sujets différents.
Oui, complètement.
Mais voilà, c'est une classe avec des assassins.
Oui, c'est ça.
D'un côté, il y a une classe avec des assassins et l'autre avec des défenseurs.
Des bodyguards, exactement.
Faites-nous un crossover, s'il vous plaît. Il y a moyen de faire un truc génial. Non, mais c'était cool. C'était une belle découverte. Pas passé un mauvais moment, ça passe bien.
Oui, c'est ça. Et puis, ça, c'est pas long à lire. Hein. On est sur le shonen, donc ça se lit vite. Très agréable. Donc, c'était Secret Bodyguard de Masamitsu Nigatsu chez Pika Édition.
Eh ben, top, hein. Est-ce qu'on rappelle un petit peu tout ce dont on a parlé? Moi, j'ai parlé de Bienvenue chez Smitch. J'ai parlé de Pop et Bulle, publié aux éditions Ozu. Bienvenue chez Smitch, c'était aux éditions Fluide Glaciale. J'ai parlé de Ma petite sœur est un chaton chez Nobinobi, des Chats d'Ultar aux éditions Kiun. Et toi, tu as parlé de...
Moi, j'ai parlé de Pineapple Army de chez Kana. On a parlé ensemble de Secret Bodyguard de chez Pika.
Mais c'était trop bien cette émission.
Et si, et Rakaï de Bibliothèque.
Ouais, avec la sortie du tome 3 de Rakaï de Bibliothèque. Eh bien écoutez, ça me paraît parfait.
Ben oui, très bien.
C'était... Je vais te souhaiter une bonne soirée.
Et ben une bonne soirée aussi, Seb.
Et puis on se retrouve dans 15 jours. On est... Non, t'es pas là dans 15 jours.
Non, oui, dans 15 jours je vous abandonne, je suis en vacances.
Ah là là, quel touriste. Allez, on se retrouve... Moi je vous retrouve dans 15 jours, chers auditeurs. En attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trop vite! Il est pas chez toi ici!
Justement! Les touristes d'abord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi! About the dark, yeah, it was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark. Everything went
Radio G 101.5 FM.